Bonjour à tous. Nous voici au premier chapitre véritable de notre cours, après l'introduction que vous avez entendue et que vous avez peut-être un peu travaillé par vous-même. Ce premier chapitre, je l'ai intitulé « Création de l'univers et création de l'homme » et il est, à vrai dire, assez conséquent. Donc, je vais, pour cette fois-ci, simplement me contenter d'essayer avec vous de comprendre les deux récits de la création, hein, et de savoir ce qu'ils disent sur l'homme et sur le rapport de l'homme au monde créé. Voilà. Petite précision aussi. Il ne faut vraiment pas que vous ayez des scrupules lors de des Zooms ou si vous m'envoyez des mails à me poser des questions. C'est pas évident de se plonger dans un domaine que l'on ne connaît pas forcément. Et puis la deuxième chose que je souhaiterais vous dire, c'est que le cours que je vous donne n'est pas une parole dogmatique. Moi, ce que j'aimerais surtout vous apporter, et ce que je reçois aussi par vos questions, c'est, vous voyez, une interrogation sur le sens de l'homme, sur ce qui vraiment nous pose des questions à travers notre existence, à travers notre existence en tant que chrétien. Voilà, c'est ça. Donc, parfois, il y aura peut-être des détours par des textes un petit peu plus techniques. Mais si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. D'abord, il y a les zooms pour que vous me demandiez des précisions. Et ensuite, l'essentiel, c'est que ça fasse son chemin. Vous voyez, l'essentiel, c'est vraiment que vous ayez, grâce à ce que moi-même j'ai la chance de savoir, un goût et une appétence pour comprendre certaines choses qui nous ont été données par le récit biblique et puis par ceux qui les ont travaillés, qui les ont médités, les pères de l'Église, les saints, les pères du Concile, etc. Voilà, donc je commence ce deuxième chapitre qui est intitulé « Création de l'univers et création de l'homme ». Alors en introduction, je ferai ces remarques suivantes. C'est que la création de l'univers et celle de l'homme font l'objet de deux récits que l'on trouve dans le premier livre de la Bible, qui est la Genèse, et que la recherche exégétique, c'est-à-dire la recherche qui cherche à interpréter la Bible, de ces dernières années, nous apprend que dans leur forme actuelle, les 11 premiers chapitres de la Genèse sont issus de deux grands récits, l'un qui relève de ce qu'on appelle l'école sacerdotale, c'est-à-dire qu'ils ont été écrits par les sages d'Israël et ils sont liés à l'exil du peuple juif à Babylone, hein, lorsqu'ils étaient captifs du roi Nabucodonosor, pardon, vers le 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et le second récit, qui est non sacerdotal, est attribué à un écrivain dont on ne connaît pas le nom, et ce récit, on l'appelle le récit yaviste de la création. Maintenant, j'aimerais revenir un petit peu sur le terme même de Genèse. Genèse, c'est la traduction du terme grec Genesis, puis du terme latin Genesis aussi, qui traduit le mot Bereshit, qui signifie origine. Origine. Ce texte entend donc nous dire ce qu'a été le commencement, l'origine du monde, alors même qu'il est impossible de le penser de manière scientifique et rationnelle. Je veux dire par là que les deux récits de la Genèse ne peuvent pas être dirimés ou annulés par les théories du Big Bang ou par l'évolutionnisme darwinien, parce que leurs champs d'application ne sont pas du même ordre. Voyez-vous, la science, elle donne des explications, elle donne des lois sur ce qui est déjà fait, déjà constitué et qui appartient à l'histoire. La science, en fait, est de l'ordre de l'explication rationnelle. Et ce que fait la science est juste. Elle n'a pas à être critiquée, mais elle est juste dans son ordre propre, qui est celui de l'explication. L'explication et non pas du sens. Vous comprenez bien la différence. C'est pas parce qu'on a expliqué quelque chose qu'on parvient à en donner forcément un sens. Et la science ne peut remonter au-delà de ce qu'elle fait. Et elle est bonne en son genre. Par contre, les récits de la Genèse ne sont pas de l'ordre de la science. On dit qu'ils appartiennent à l'ordre du mythe. À l'ordre du mythe, et à distinguer avec ce qu'on appelle la légende, la fable ou la fiction. Les légendes, les fables ou les fictions, ce sont de pures inventions humaines qui ne cherchent pas à donner un sens à une situation, à la différence du mythe. Le mythe, à la différence de la science, ne prétend à aucune scientificité. Mais il tente de donner une interprétation du déroulement historique en cherchant la cause première et fondatrice. Le mythe s'intéresse à l'origine et non pas à ce qui existe déjà, mais au pourquoi de ce qui existe déjà. Son domaine est donc non pas celui de l'explication, mais de l'interprétation et de la recherche d'un sens. Il cherche à donner à penser un impensable et un insaisissable afin que l'homme donne une signification tant à l'histoire en général qu'à son histoire personnelle. Là, vous voyez, on est vraiment dans les interrogations centrales de tout être humain, à savoir d'où vient le monde, d'où est-ce que je viens, pourquoi la création, pourquoi est-ce ce que je suis ici? C'est-à-dire ces questions que l'on appelle communément existentielles. Et à ce moment-là, j'aimerais vous lire un petit texte de Mircea Eliade. Mircea Eliade, c'est un grand historien des religions du XXe siècle, qui a en particulier écrit trois volumes sur l'histoire des religions. Il s'est beaucoup intéressé au sacré et au profane. Il s'est intéressé au mythe. Il s'est intéressé vraiment à ce qui fait l'essence de toute religion. Et voilà ce qu'il dit dans son livre, un livre intitulé Aspects du mythe. Personnellement, la définition qui me semble la moins imparfaite, parce que la plus large, est la suivante. Le mythe raconte une histoire sacrée. Il relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des commencements. Autrement dit, le mythe raconte comment, grâce aux exploits des êtres surnaturels, une réalité est venue à l'existence. Que ce soit la réalité totale, le cosmos, ou seulement un fragment, une île, une espèce végétale, un comportement humain, une institution. C'est donc toujours le récit d'une création. On rapporte comment quelque chose a été produit, a commencé à être. Le mythe ne parle pas de ce qui est arrivé réellement, de ce qui s'est pleinement manifesté. Les personnages des mythes sont des êtres surnaturels. Ils sont connus surtout pour ce qu'ils ont fait dans les temps prestigieux des commencements. Les mythes révèlent donc leur activité créatrice et dévoilent la sacralité ou simplement la surnaturalité de leurs œuvres. En somme, les mythes décrivent les diverses et parfois dramatiques irruptions du sacré ou du surnaturel dans le monde. C'est cette irruption du sacré qui fonde réellement le monde et qui le fait tel qu'il est aujourd'hui. Plus encore, c'est à la suite des interventions des êtres surnaturels que l'homme est ce qu'il est aujourd'hui, un être mortel, sexué et culturel. Le mythe a une dimension sacrée, sacré, c'est-à-dire séparé. Il n'appartient pas à l'ordre profane de l'histoire, ne s'inscrit pas en elle, mais il l'explique néanmoins. Il est anhistorique, c'est-à-dire qu'il appartient à un temps sans temps, un temps primordial. Mais il est nécessaire pour comprendre notre propre historicité. Il est de l'ordre du fondement en réalité. Il fonde notre propre histoire précisément parce qu'il ne lui appartient pas. Autant dire, sa dimension est d'ordre métaphysique, c'est-à-dire au-delà de la nature et de la physique de notre monde matériel physique d'espace et de temps tel qu'on peut l'expérimenter. Et en même temps, lui seul, dit Eliade, est réel, parce que tout ce qui vient après lui est considéré comme une sorte de perte, une dégradation, une chute, une séparation d'avec ce qui était à l'origine. Les protagonistes du mythe sont des êtres dits surnaturels, au sens où ils sont au-delà de la nature. Au-delà de la nature, ça veut dire au-delà de la corruption, au-delà de la mort, au-delà de la souffrance, au-delà du dépérissement, au-delà des maux. Voilà ce que sont, à mon avis, les deux premiers récits de la création. Ils appartiennent à l'ordre du mythe. Comprenez bien qu'ils n'entendent pas dire une vérité scientifique seulement sur l'homme. Ils expliquent simplement l'état actuel de l'humanité, ce qu'elle a, son historicité, et ce qu'elle endure, ce qu'elle est en elle-même. Donc, premièrement, les deux récits de la création, et petit 1, le premier récit, ou récit dit sacerdotal. Je vais vous le lire. Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre, il l'appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait des firmaments au milieu des cieux. Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et le continent paraisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre le continent, il appela mer l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rend féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des arbres qui portent des fruits, ayant en eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit, et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour et à la nuit et séparer la lumière de la ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent des eaux, les eaux, et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers, et que l'oiseau prolifère sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. » Dieu créa l'homme et à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. » Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. » Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite, il arrêta au septième jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le septième jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Ce premier récit, vraiment très poétique, relate la mise en œuvre de l'ordre des choses à partir de la séparation fondamentale des éléments, de la lumière et des ténèbres, de la terre ferme et des eaux. L'ordre se lit dans cette séparation et se lit aussi dans le terme d'espèce. Elles sont séparées les unes des autres et c'est ce qui constitue l'harmonie de la création. C'est-à-dire que les espèces ne se mélangent pas. À chaque espèce, son lieu propre. À chaque espèce, sa fonction propre. Et à chaque acte créateur, et juste cela jusqu'au sixième, il est dit « Dieu vit que cela était bon ». La création trouve son sommet dans la formation de l'homme qui en est le but, puisqu'il est créé, dit le texte, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans ce premier récit, on peut interpréter cette création de l'homme comme la création de l'homme générique, l'homme avec un grand H si vous voulez, l'homme qui est homme et femme, comme l'indique d'abord le pluriel, et qu'ils soumettent les poissons de la mer. Puis, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Le texte précise plus loin que ce n'était pas bon, mais très bon. Alors, que comprendre ? L'homme est créé homme et femme. L'implication est vraiment importante. Cela signifie que la différence sexuelle appartient à Dieu et qu'il faut penser l'homme et la femme à la fois indistincts et distincts, d'une nature commune et semblable, mais dans une différence spécifique qui constitue en quelque sorte un ordre et une harmonie. Si vous voulez, je vous explique un peu plus. Il y a une nature commune à l'homme et à la femme. Il n'y a pas de différence naturelle entre l'homme et la femme, mais il y a une complémentarité de l'homme et de la femme en raison même de ce qu'ils sont distincts en tant qu'homme et femme, en tant que masculin et féminin. L'homme, le genre humain, est le sommet de la création divine. Et c'est pourquoi il peut soumettre ou dominer les êtres vivants de la terre. Ici, j'aimerais que nous fassions très attention à ces deux termes, soumettre ou dominer. Soumettre, c'est en latin subjicere. Subjicere ne signifie pas seulement dominer ou assujettir, mais aussi mettre sous la dépendance de. Dominor, le dominium, signifie être maître, régner. Il ne faut donc pas voir dans ce passage une injonction à la violence et à la manipulation de la création qu'on lit aujourd'hui volontiers chez les tenants de l'antispécisme. L'homme est plutôt cet être qui est le lieutenant de Dieu sur terre. Il doit en être le maître et régner. Il doit tenir lieu de Dieu sur terre. Il doit prendre soin de la terre comme Dieu lui-même a pris soin de la création tout entière. Le rôle de l'homme, c'est l'art de gouverner, ce qui revient précisément à garder l'harmonie des espèces et leur épanouissement vital. La création est un don que Dieu fait à l'homme. Elle est don de la vie des espèces, don de sa vie propre. C'est à ce don que l'homme doit répondre. La création, c'est déjà une alliance entre Dieu et l'homme. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance. Nous développerons plus loin ce point et largement. Notons cependant déjà qu'il y a davantage dans le terme de ressemblance que dans celui d'image. Les deux ne sont pas synonymes. Une image, en effet, peut être plus ou moins ressemblante à son modèle. En outre, nous pouvons remarquer que l'expression « à l'image et à la ressemblance » dit à la fois une forte proximité entre l'homme et Dieu et une différence absolue entre la créature et le créateur, qui lui reste totalement transcendant et dont elle dépend absolument. L'être de l'image dépend entièrement de celui dont elle est l'image. L'image, si vous voulez, n'a pas de statut propre. Elle est toujours un reflet, elle est toujours une émanation de quelque chose. L'image doit toute sa substance, doit toute sa réalité à ce dont elle est l'image, c'est-à-dire à son modèle. Mais en même temps, c'est cette altérité radicale entre Dieu et l'homme qui constitue une possibilité d'alliance, de relation. S'il y avait une identité parfaite, il n'y aurait aucune relation. Aucun dialogue ne serait possible. L'homme est donc déjà défini comme un être en relation. Il est un être qui est fait pour être en alliance. Plus, il est le seul être créé à en être capable. Alors que les autres créatures sont marquées par la séparation des espèces, qu'un chien ne pourra jamais entrer en contact, en quelque sorte, créer une alliance avec un chat ou avec les autres animaux, l'homme, en revanche, se distingue par son être en rapport avec Dieu et avec les créatures. Abordons maintenant, et c'est notre petit 2, le deuxième récit de la création. C'est en Genèse 2-3. Je vous lis le texte. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme comme il l'avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, il se partageait pour former quatre bras. L'un d'eux s'appelait Pishon. C'est lui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Gilon. C'est lui qui entoure le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle Tigre. Il coule à l'Orient d'Assour. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme : Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Le Seigneur Dieu dit : Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel, qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom « être vivant ». L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs, mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qu'il lui amena. L'homme s'écria : Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Ainsi, l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Or le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme : Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ? La femme répondit au serpent : Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme : Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ? L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre tes descendances et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon. » Il dit à la femme, « Je ferai qu'enceinte, tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. » Il dit à Adam, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais fortement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière, tu retourneras. » L'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui a été la mère de tout vivant. Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Maintenant, qu'il ne tente pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais. Le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il posta les chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le deuxième récit, ou récit appelé Yaviste, est en réalité le plus ancien. Et ce qu'on peut remarquer tout d'abord, c'est que les deux récits ne sont pas superposables. Ici, la création des animaux intervient après celle de l'homme. Dans ce récit, un dieu jardinier pétrit l'homme avec de la glaise du sol et lui insuffle un souffle de vie. Adam. Adam, cela signifie en hébreu homme, et vient de Adama, le sol. Adam est le premier homme, l'homme primordial ou générique, l'humanité, comme dans le premier récit. Dieu installe cet Adama dans un jardin paradisiaque entouré de quatre fleuves et porteur d'arbres aux fruits goûteux et séduisants. Parmi eux se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sur lequel le Créateur porte un interdit sous peine de mort. Tout cela se passe avant la création de la femme. Dieu crée ensuite l'ensemble des animaux, cherchant à travers eux une aide pour Adam. N'en trouvant pas, il fait tomber un profond sommeil sur l'homme, lui prend une de ses côtes et façonne la femme. Alors, première remarque. La traduction française dit « côte », là où l'hébreu dit « tselem », qui signifie aussi bien « côte » que « côté ». La Septante a traduit l'hébreu par « pleura », rendant par là les deux sens originaux. La Septante, c'est la petite précision, hein. La Septante, c'est la traduction du Premier Testament en grec. Ce n'est qu'en vertu de cela que l'on peut comprendre l'apparition du masculin et du féminin sans contradiction avec l'affirmation précédente de la création de l'humanité. Adam appelle celle qui fut tirée de lui Isha, la femme, le féminin de Ish, l'homme. Ce qui veut dire que la différence, encore une fois, entre l'homme et la femme n'est pas une différence essentielle, une différence de nature, mais une différence relative au sexe. Encore une fois ici, il y a une différence au sein d'une unité fondamentale, d'une plénitude partagée de nature entre l'homme et la femme, ce que dit bien davantage le terme « côté » que « côte ». Deuxième remarque. Ce récit complète le premier. L'homme est non seulement un être en relation verticale avec son Dieu, mais horizontalement avec son autre, avec qui il partage cette unité d'essence, cet autre, c'est la femme. L'homme est encore une fois caractérisé comme un être pour, un être vers, un être en relation. Il ne s'accomplit, dirions-nous, qu'en sortant de lui-même pour aller à la rencontre de l'autre. C'est cette ouverture qui le caractérise quand même un être inachevé, qui ne se fait que par la relation à autrui. J'entends par être inachevé que l'homme, la destinée de l'homme, c'est de toujours être un homme qui se tourne vers l'extérieur, un homme qui se tourne vers la nature, vers la femme, vers son prochain et vers la transcendance. Pour résumer, l'homme est un être destiné à la transcendance au sens étymologique de transcendere. L'homme est un être destiné à se dépasser lui-même. Le texte mentionne aussi un autre point essentiel pour comprendre la relation de l'homme au reste de la création. Dieu réserve à Adam la nomination des animaux. Qu'est-ce que ça veut dire, nommer les animaux? Donner un nom, et c'est une façon d'affirmer la supériorité de l'homme sur la création. Donner un nom, c'est toujours, en quelque sorte, maîtriser. Vous voyez bien que lorsque un mot nous manque pour nommer une chose, la chose nous échappe. Lorsque le mot nous manque pour expliciter une idée, l'idée nous échappe, l'idée n'est pas clairement pensée, n'est pas clairement conçue, pensée. Donner un nom, c'est donc une façon de se rendre maître de celui à qui on donne un nom. Ça veut dire que ce récit yaviste affirme que par la parole, l'homme a une supériorité par rapport au reste de la création et qu'il y a une différence d'essence radicale entre l'homme et l'animal. Et en même temps, le fait que la parole et la nomination soient données à l'homme renforce aussi cette idée que l'homme est un être capable d'alliance et de relation. D'alliance par quoi? Précisément par la parole. La parole, c'est ce qui lui permet d'établir un lien avec les animaux, un lien de supériorité, mais aussi un lien avec son Dieu. Lorsque Dieu, après la faute, interpelle Adam, Adam répond de quelle façon? Adam répond parce qu'il a la parole. Ces deux récits, le récit yaviste et le récit sacerdotal, voyez-vous, se complètent et affirment l'un et l'autre que la création est très bonne, œuvre d'une bienveillance sans obstacle. Ils partagent trois points communs. La supériorité de l'homme sur le reste de la création et sur l'animal. La différence des sexes et l'union des sexes, qui signifie le désir de l'altérité. Et enfin, le devoir, ou plutôt le respect envers le commandement divin, qui signifie que l'homme ne peut se passer de cette relation vers la transcendance. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire le poème de saint François d'Assise sur la création. Je pense qu'il vous montre à quel point, il peut nous montrer à quel point cette création divine est merveilleuse. Très haut, tout puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire et honneur, et toute bénédiction. À toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant, d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent les épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en état de péché mortel, heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Alors, le deuxième texte de la Genèse est consacré à ce qu'on appelle en langage chrétien le péché, tout comme la fin du poème de saint François d'Assise. Ce que j'aimerais que nous retenions ensemble de ces analyses des textes bibliques qui sont inépuisables et que j'analyse forcément de façon limitée, partiale, partielle, mais nous aurons des zooms pour échanger là-dessus, c'est que la création, c'est d'abord une harmonie du tout, une harmonie des parties. Une harmonie de chaque espèce. Cette harmonie, c'est le terme grec de cosmos qui la rend le mieux. Cosmos, en grec, signifie à la fois l'ordre et la beauté. Hein, d'où vient d'ailleurs, petite blague, le terme cosmétique. Lorsque nous nous mettons du maquillage, nous rétablissons un peu d'ordre et de beauté sur ce qui peut être un peu chiffonné. C'était une parenthèse. Ce qu'il faut retenir aussi, certainement, c'est cette création par amour de Dieu. Hein? Lorsqu'il répète à chaque fois, cela est bon, il le répète jusqu'à la création de l'homme, cette création est dite très bonne. Hein, comme le dit Gaudium et Spes, l'homme est la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même. Le reste de la création, dans le reste de la création, il y a une interdépendance des éléments. L'homme voulu pour lui-même, ça veut dire l'homme voulu dans sa singularité d'homme. Et qu'est-ce qui fait la singularité de l'être humain? C'est précisément qu'il est créé à l'image et à la ressemblance. Donc, on analysera ça la prochaine fois. Mais cette création à l'image et à la ressemblance, on pressent déjà qu'elle va avoir un lien avec la parole. La parole qui permet de s'adresser par la nomination des animaux, hein, de penser. Si on n'a pas de mots, on ne peut pas penser. C'est dans le mot que nous pensons, disait Hegel, et qui aussi permet de s'adresser à Dieu. Et on le voit à la fin du deuxième récit biblique, Dieu s'adresse à l'homme en lui disant « Où es-tu ?» et l'homme répond. L'homme répond. Donc c'est cette parole qu'on peut interpréter de différentes façons, on le verra, hein, comme, comme le lieu de la rationalité, de l'intellectualité, qui constitue cette supériorité de l'homme par rapport au reste. Ce qu'on doit aussi retenir dans la veine de Laudato Si, écrite par notre pape François, c'est que il ne faut pas, surtout pas, mal interpréter cette domination de l'homme sur l'animal. Domination, ça ne veut pas dire destruction, ça ne veut pas dire exploitation, ça ne veut pas dire, comme dirait Heidegger, arraisonnement, c'est-à-dire destruction par la technique, exploitation des sols, abattage massif, destruction massive. Non, l'homme domine sur la terre parce qu'il est le gardien de la terre. L'homme est l'analogue de Dieu sur terre. Dieu est le maître de la création et il a donné à l'homme ce rôle de gardien de cette création. Et là, notre rôle est essentiel. Essentiel non seulement pour la création elle-même, mais aussi pour la dignité de la permanence d'une vie humaine sur terre. Si nous détruisons la création, nous détruisons la possibilité d'une vie humaine harmonieuse en son sein. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puisque nous allons ensuite aborder le problème particulier. Ça sera le grand 2 du chapitre, à l'image et à la ressemblance, la création de l'homme. Et nous verrons quelles sont les interprétations qui ont été données, déjà des pères grecs et ensuite d'un grand théologien qui est Saint-Augustin. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.